Bonjour.
Cette favela Olympica, c'est Villa Autodromo. Alors l'accent n'est pas assez terrible, je suis désolée, mais on va faire mieux peut-être au fil de l'émission. Une favela qui est aux abords directs de ce qui va devenir le parc olympique. Et puis, il faut le préciser tout de suite, ce n'est pas une favela où règnent les gangs. On est assez loin de l'image de violence qu'on a des favelas de Rio en général.
Ouais, c'est vrai, c'était ils disent une communauté, parce que c'est vraiment l'idée, en fait, on va dire comme ça, pour nous, Européens, on appellera ça une favela, parce qu'il y a cette esthétique, on va dire comme ça. Mais du fait qu'il n'y ait pas de trafic de drogue à l'intérieur, ça change complètement les relations. Il n'y a pas de violence. Et elle était effectivement relativement... On n'est pas au centre-ville directement, on est légèrement sur l'est de la ville, là où le futur développement va se faire, malheureusement pour eux. Et effectivement, parce qu'ils ne sont pas pris, on va dire, dans le développement qui est imaginé par la ville.
Vous parlez de communauté, on est donc avec une communauté qui va se battre, soudée, contre la spéculation immobilière, parce que pour construire le parc olympique, il faudra détruire donc la favela.
C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, il n'y avait pas une obligation de détruire cette favela. Cette favela, elle existait à côté du parc. Anciennement, c'était un circuit automobile, puis il y aura le parc olympique qui va prendre la place. Mais donc, les deux auraient tout à fait pu coexister. C'est un choix politique de les enlever. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas joli sur la photo olympique.
Pollution visuelle.
Pollution visuelle, ils disent eux-mêmes, effectivement. Et c'est là où moi, je me suis dit, bon, là, c'est vraiment un endroit où c'est intéressant d'aller filmer, parce qu'on voit bien qu'effectivement, c'est pas pour une réalisation technique, urbanistique, architecturale. C'est vraiment parce qu'il y a une autre vision qui est portée, on va dire, qui est un petit peu drainée avec le projet olympique, et c'est ça qui m'intéressait.
Et les JO, c'est un peu un prétexte, finalement, pour expulser les habitants. Le but final, c'est bien que les promoteurs immobiliers puissent bénéficier du terrain.
Ouais, puis je veux dire comme ça, c'est un espèce de super pouvoir, comme ça. C'est un super pouvoir qui peut être exercé autant par la justice, par les financiers. Bah, tout d'un coup, tout est orienté sur les Jeux Olympiques. Et c'est-à-dire que même les avocats qui défendaient ils avaient des arguments pour défendre la communauté, ils disaient, mais on se trouve devant des juges qui nous disent, oui, on comprend bien, vous avez raison. Mais on ne peut quand même pas empêcher la réalisation des Jeux Olympiques. Et là, on voit bien la limite, on va dire, un petit peu cet exercice.
Et il y a on suit le parcours des habitants, comme Peña, la femme de ménage, Delmo, le serrurier, Louise, le prof de gym, et puis tous les autres, ils ne vont pas accepter d'être délogés, et ils vont lutter avec leurs moyens, c'est ça ?
C'est ça, faut quand même dire comme ça, quand moi je commence à tourner le film, je me trouve devant 300 familles à peu près. Donc comment on filme 300 familles ? Moi je ne sais pas filmer 300 familles. Donc on va très vite essayer de trouver quelques personnes dans la communauté. Et puis ces gens-là, en fait, vont au fil de la lutte du temps, parce vraiment ils risquent leur maison, c'est-à-dire tout, ils ont rien, ils n'ont pas d'économie, ils n'ont pas un compte en banque ou je ne sais pas quoi. Donc on part dans le tournage, et ces gens-là vont vraiment se révéler. Parce qu'ils vont à un moment, ils vont prendre conscience que s'ils perdent leur maison, c'est-à-dire ils perdent pas que un toit et des murs, ils perdent vraiment un rapport avec la ville, un rapport avec les autres, avec la terre, et ces gens qui vont réussir à réaliser en fait tout ce qu'ils vont perdre, ils vont se battre, ils vont se surpasser, et ils nous donnent une espèce de leçon. En tout cas, moi j'ai pris une leçon en les filmant, parce que c'est vrai que c'est des gens de petites conditions, on va dire comme ça, en face d'eux, c'est tous les moyens de l'olympisme, on va dire comme ça, enfin drainé par l'olympisme, justement, c'est pas le CEO lui-même, hein. Il y a beaucoup de choses en fait qui après vont traduire ce qui va se passer sur le terrain, mais ces gens-là en fait vont développer des compétences en droit, en communication, en cohésion, si c'est vrai, même si tout le travail des autorités, ça a été de les séparer, de créer la discorde au sein de la communauté.
Parce que donc, il y a des négociations qui sont faites, on vous rachète votre maison, on vous propose un appartement, on vous donne plus d'argent que vous pourriez en gagner dans votre vie, et puis eux, ils luttent pour rester dans leur maison, qui sont faites de briques et de broc, alors qu'on leur propose des logements tout beaux, tout neufs.
Ouais, on peut le regarder comme ça, et c'est vrai qu'une première une première série de familles, on dit ah oui, moi je préfère un appartement neuf et je m'en vais. Mais d'autres personnes se sont rendues compte qu'effectivement un appartement, ça a beaucoup de conséquences pour ces gens-là. Un appartement neuf, ça veut dire effectivement ils seront plus loin pour des questions de transport tout simplement, de rapport au travail, de rapport aux voisins, de rapport à ce qu'ils ont construit eux-mêmes. Et c'est-à-dire leur maison, des fois effectivement, Peña le dit très très bien dans le film, à un moment elle dit c'est pas une maison de rêve, mais c'est la maison de mes rêves. Et je trouve que ça remet bien effectivement les choses en place. C'est ce que ces gens-là pouvaient réaliser de mieux. Et c'est vrai que quand on prend vraiment... pas mal de familles qui sont parties, aujourd'hui regrettent d'être parties, parce qu'elles réalisent effectivement, ils ont pris un appartement neuf, mais ça veut dire aussi qu'ils vont devoir payer l'électricité, qu'ils vont devoir payer l'eau, tout ça, à des tarifs, on va dire, normaux, alors qu'avant, il y a un espèce de fonctionnement alternatif quand on est dans la favela. Et si ces gens-là, pardon, n'arrivent pas à payer dans les 2 ans leur appartement, ils vont tout perdre. Les appartements, les frais, en fait, dont je parlais, ils vont tout perdre. Ça veut dire, en fait, ça va être très très dur pour ces gens-là.
Et puis ce rapport à la nature, hein, dont vous parliez tout à l'heure, avec, je crois que c'est Delmo le serrurier, qui va déterrer des arbres, déraciner des arbres pour pouvoir les sauver et les replanter ailleurs, en disant bah, un laurier c'est tellement dur d'arriver à avoir un beau laurier comme celui-là, et puis ben voilà quoi, il a pas le temps de tout déterrer que les bulldozers ont déjà passé.
Exactement. C'est une espèce de métaphore en fait de ce qui se passe. Et c'est vrai que pour nous, ça marchait. Quand moi je l'ai saisi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle image. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de l'arbre qui met 30 ans à faire ses racines. C'est des racines qui doivent contourner les roches qui sont existantes, se trouver sa place. Mais voilà, après 30 ans, vous avez un bel arbre, vous avez des fruits, vous avez de l'ombre, et tout ça en 30 minutes, vous pouvez le mettre en bas. Et ben voilà, le projet olympique, ben ils plantent des palmiers. Ça ne fait pas de fruits, ça fait très peu d'ombre. C'est pas très intéressant.
En fait, cette destruction de cette favela, cette promesse de destruction, elle va au-delà de la favela. Elle enlève en fait un peu l'âme du quartier, des alentours de ces stades, pour enlever, en fait, dénaturer ce qui a été construit en plusieurs décennies.
Exactement, quoi. Ces gens-là, en fait, ils étaient, pour être clair, en fait, c'est une communauté qui est venue s'installer dans un terrain qui ne leur appartenait pas. C'était un terrain qui était vide, un terrain qui appartenait à la ville. Et il y a deux lois, on va dire, au Brésil qui entrent un petit peu en contradiction. Il y en a une qui dit on peut pas prendre un terrain qui ne nous appartient pas, mais il y a une loi qui dit aussi si on n'a pas toit, on a droit à un toit. Et donc, si vous arrivez à vous installer, plus vous pouvez rester, plus ce droit va commencer à devenir plus fort. Et eux, ils étaient mais vraiment à deux doigts d'être totalement légalisés dans ce terrain.
Jusqu'au moment où le CIO attribue les Jeux à Rio.
Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, typiquement, Louis, un des personnages du film, il est prof de sport. Lui, quand il apprend qu'il y a les Jeux qui vont venir à Rio, il saute de joie, il est heureux. Et tout ça va se retourner complètement. Il va réaliser qu'en fait, à cause du sport, il risque d'être délogé.
Samuel Chalard, expliquez-nous comment un réalisateur chaudfonnier se retrouve 2 ans avant les JO dans une favela carioca avec sa caméra.
Bah, tout ça commence 8 ans plus tôt encore, sur une table de l'ABC à la Chaux-de-Fonds. Donc ici, on est local. Je pars de la page blanche en me disant sur quoi j'ai envie de travailler. Et puis, j'avais vu des images des sites olympiques abandonnés dans les villes. Donc, il y avait eu les Jeux dans le passé. Donc, je pense à Sarajevo, à Athènes. Et il y en a eu d'autres. Mais après, je suis parti effectivement sur cette piste-là. J'ai suivi un moment le... Moi, j'y croyais fort. Hein. Je trouvais qu'il y avait vraiment un potentiel incroyable. J'allais faire des repérages à Sarajevo, à Barcelone, à Athènes, à Londres, qui était encore devant moi. Et en même temps, tout le monde me disait « Ah, c'est bien, puis il manquait un truc, il manquait une actualité. » Et puis le projet patinait un peu, on n'arrivait pas à trouver le financement. Et on se trouve en juin 2013. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le Brésil quasiment est dans la rue, avec des slogans, dont un, donc je me souviens très bien, qui était « On aimerait des hôpitaux au standard de la FIFA ». Et moi, c'était le genre de questionnement, je crois que c'était mieux formulé encore que ce que j'avais dans mon dossier, mais c'était ce genre de question que j'avais. Et là, je me suis dit « Ok, tourne-toi là sur Rio, c'est là-bas que ça va se passer ». Et dès que je tourne sur Rio, on arrive à trouver du financement pour le développement, je me rends sur place. Et très vite, comme je connaissais effectivement assez bien le scénario qui s'était passé dans d'autres villes, ce qui me fascine avec la situation de Villa Autódromo, c'est qu'il pouvait tout à fait, comme je disais précédemment, il pouvait tout à fait rester en place. C'est pas qu'on construisait à la place de la communauté des arènes sportives, c'était à côté. Donc là, je me dis, il y a une histoire formidable. Et puis, mais très vite, les gens me disent attention, parce que cette histoire-là, dans 6 mois, c'est poussé. La police arrive un matin, elle ferme,
il dégage
tout le monde, fin d'histoire. Donc ne construis pas ton film sur là-dessus. Donc moi, je commence à construire plusieurs chapitres qui peuvent un petit peu fonctionner, avec aussi l'idée d'aller voir des gens qui sont aussi enthousiastes. J'ai aussi envie de les entendre pour voir comment ils voient tout ça. Donc je construis tout le dossier, et puis on part dans le tournage. Effectivement, on commence une semaine après la Coupe du Monde de football, un petit peu perdu, deux petits Suisses perdus dans une communauté, et en même temps, ben voilà, au fil du temps, on va faire des rencontres, la communauté va perdurer. Et ce qui fait qu'effectivement, à un moment, cette histoire, on se dit, non, mais c'est incroyable, ils vont arriver à tenir. C'est-à-dire, il y avait un rapport avec le temps qui est assez, assez intéressant. C'est-à-dire, au début, plus les jeux s'approchaient, plus c'était une menace pour les gens de la communauté. Et à un moment, on est tellement près des Jeux Olympiques que non, ça change. C'est-à-dire, si on arrive à tenir encore un petit moment, ils pourront plus nous déloger, ce sera trop tard. Et donc, on a vécu tout ça, mais moi, je me souviens que deux fois, je pars avec mon caméraman, et puis je lui dis, écoute, on filme ça comme si c'était la dernière fois que tu pouvais filmer ce lieu, qui va disparaître. Parce qu'on est intimement persuadé que ça va finir. Et non, ces gens arrivent à trouver la force, arrivent à trouver l'énergie, les moyens de perdurer. Et du coup, cette histoire, elle devient complètement folle, quoi. C'est-à-dire, nous, on est vraiment, moi j'ai dit, j'ai pris une leçon de vie, de courage, d'investissement. Je ne vous cache pas que c'est quand même un tournage très, très stressant, parce que chaque fois que je pars là-bas, je me dis, dans quel état je vais les trouver, où est-ce que le film va? On ne savait pas du tout. Mais effectivement, on avait quand même il y avait cette échéance, on va dire, des Jeux Olympiques. Moi, je savais que le film, il se terminait à peu près. Effectivement, on termine le tournage 5 jours après l'ouverture des Jeux Olympiques.
Et en fait, le combat de cette favela, il aurait pu durer quelques semaines et pas les 2 ans qu'il a duré au final.
Absolument. Et là, je pense qu'il y a un jeu des médias qui a joué. C'est-à-dire que la situation, en fait, était tellement particulière. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une favela, un mur de 3 mètres de haut et puis derrière le chantier olympique qui se construisait, que tous les médias internationaux qui venaient couvrir la préparation des Jeux Olympiques à Rio, c'était quasi un passage obligé, je vais dire comme ça. En tant que photographe, si vous aviez 3 jours, vous alliez là-bas, vous aviez votre photo, c'était bon. Et du coup, tout le monde passait là-bas. Et ça veut dire que ça donnait une visibilité à la communauté. Visibilité, je tiens quand même un petit peu à préciser, c'est une visibilité qui est soit dans le milieu militant très local, soit au niveau international. Mais le niveau national va plutôt faire l'impasse, ne veut pas parler de ça, ou s'ils en parlent, ils en parlent très très mal vis-à-vis de la communauté en disant on leur offre des millions et puis ils nous empêchent de faire les jeux, c'est à peu près ça le discours.
C'était quoi le plus difficile? C'était de se faire accepter et puis d'accepter que les gens de la favela acceptent la présence de vos caméras, ou alors de décrocher un rendez-vous dans le bureau du maire de Rio, Eduardo Paes?
Je peux pas comparer, c'est tellement différent l'un et l'autre. Alors parlons déjà un petit peu du rapport avec les gens. C'est compliqué pour moi effectivement d'avoir une relation particulière. C'est-à-dire au début on est pris comme un média de plus, ce qui m'intéresse pas du tout. Et puis ils sont tellement habitués à parler aux médias que on allume la caméra, ils regardent dans la caméra, ils nous servent un discours complètement habituel qu'ils parlent bien, ils parlent extrêmement bien, ils savent très très bien défendre leur truc. Mais moi j'ai envie d'un film qui soit plus humain, qui soit plus incarné, qui soit plus proche des gens, on est plus dans quelque chose de naturel. Donc effectivement il faut construire la confiance qui va permettre que la confiance va permettre effectivement le naturel après devant la caméra. Donc c'est assez difficile de au tout début, parce que c'est beaucoup de personnages, on sait pas quels sont les personnages qui vont rester, lesquels vont trahir, lesquels vont partir. Et du coup, on va dire comme ça, on court derrière tous les lièvres, qu'on voit. Donc c'est assez éprouvant, on court vraiment dans tous les sens. Plus le film avance, plus une partie des gens s'en vont, donc il va rester un nombre de personnes qui à la fin vont devenir des amis. Donc un noyau dur. Nous, on a des relations intimes, tout le monde nous connaît dans la communauté, donc on n'a plus à se présenter. Et on arrive à des scènes formidables où les gens sont dans la rue, on est en train de filmer une personne, ils en rencontrent une autre, et puis ils parlent naturellement. On n'a pas à faire un signe en disant bonjour, on est les cinéastes suisses, je sais pas quoi, ils nous connaissent tous déjà, on les a quasi tous déjà filmés. Donc là, c'est vrai que la fin du tournage, on va dire tout ce qu'on a planté au début, ça a payé après. Pour le maire, c'est tout autre chose. Alors là, c'est c'est la voie officielle. Honnêtement, moi, je pensais au début, si on m'avait dit faut que tu ailles interviewer le maire, moi, j'avais dit non, merci. C'est quand même le maire d'une ville de 11 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Donc moi, je me dis non. Puis en plus, je me dis le maire, ce sera forcément une voix, un discours politique, très construit et en fait très peu
langue de bois.
Langue de bois, voilà. Et j'avais pas du tout envie de ce discours-là. Et puis, en fait, dans le travail, dans le rapport avec la communauté, à un moment, c'est quasi une obligation. C'est-à-dire que sur les murs, il taguait tout le temps des slogans. Il y avait tout le temps Eduardo Paes qui venait. Et il incarnait complètement, effectivement, on va dire, l'opposant de la communauté. Donc, il fallait aller le trouver, c'était sûr. Alors là, c'est un petit peu compliqué. C'est 6 mois, je pense, à peu près, où on insiste pour avoir le rendez-vous. Mais on arrive à l'avoir. Toutes les questions, on doit les envoyer à l'avance. On a le service de presse qui est derrière nous. Mais voilà, on arrive à... Moi, en même temps, je suis pas dans un moment quand je vais voir le maire, je vais pas lui dire bon alors la communauté que vous faites mal ou je sais pas quoi. J'essaie plutôt de dire voilà, vendez-nous les jeux, allez-y, je vous encourage à aller le plus loin possible pour que, et après c'est le film qui permet effectivement de mettre en rapport ça, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça.
Favela Olympica, c'est ce film qui sort donc mercredi prochain sur tous les écrans, avant ça, les avant-premières. Bon, on en mettra évidemment la liste tout à l'heure sur la page de Format 3. Merci beaucoup Samuel Chalard d'avoir partagé ces instants avec nous.
Merci.